Chapitre 87. Accalmie. Le chaos en Aletkar est bien entendu inévitable. Guettez prudemment et ne laissez pas le pouvoir se solidifier dans le royaume. L'épine noire pourrait devenir un allié ou notre pire ennemi, selon qu'il choisira ou non la voie du seigneur de guerre. S'il semble probable qu'il appelle à la paix, assassinez-le promptement. Le risque de compétition est trop grand. Extrait du diagramme, écrit de la lampe de chevet. Paragraphe 4. Troisième traduction d'Adrotagia à partir des hiéroglyphes d'origine. Les plaines brisées l'étaient de nouveau. Kaladin les traversa d'un pas tranquille avec la lame d'éclat de Seth sur l'épaule. Il longea des amas rocheux et de nouvelles fissures dans le sol. D'énormes flaques, pareilles à de petits lacs, miroitaient au milieu d'énormes fragments de pierres brisées. Immédiatement sur sa gauche, un plateau entier s'était effondré dans les gouffres qui l'entouraient. La base du plateau, aux déchirures irrégulières, était d'une teinte noire, carbonisée. Il ne trouva aucune trace du cadavre de Seth. Ça pouvait signifier qu'il avait survécu d'une manière ou d'une autre, ou simplement que la tempête avait enfoui son corps sous les décombres, ou l'avait abandonné dans un gouffre oublié, où il pourrirait jusqu'à ce que ses os soient enfin ramassés par une malheureuse équipe de récupération. Pour l'heure, le fait que Seth n'ait pas invoqué sa lame pour la rappeler à lui était suffisant. Soit il était mort, soit, comme l'avait dit Syl, cette arme étrange n'était plus liée à lui. Kaladin ignorait comment s'en assurer. Cette lame-ci ne possédait pas de gemme au niveau du pommeau pour l'indiquer. Kaladin s'arrêta sur un point élevé du plateau pour étudier les dégâts. Puis il lança un coup d'œil vers Syl, assise sur son épaule. « Ça va recommencer ?» demanda-t-il. « Cette autre tempête est toujours là, quelque part ?»«
Oui, » répondit Syl. « Une nouvelle tempête. Elle ne provient pas de nous, mais de lui.
Est-ce que ce sera aussi grave chaque fois qu'elle passera ?» De tous les plateaux qu'il distinguait, un seul avait été entièrement détruit. Mais si la tempête était capable d'infliger ce genre de dommages à de la pierre, que ferait-elle à une ville ? Surtout dans la mesure où elle soufflait dans le mauvais sens. Père des tempêtes, l'ailette ne serait plus d'ailette. Des bâtiments qu'on avait conçus pour être orientés dans le sens opposé aux tempêtes se retrouveraient soudain exposés.
« Je n'en sais rien, » répondit Syl tout bas. « C'est quelque chose de nouveau, Kaladin. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Je ne sais ni comment ça s'est produit, ni ce que ça signifie. Avec un peu de chance, ce ne sera pas aussi grave, sauf quand une tempête majeure et une tempête éternelle entreront en collision. »
Kaladin répondit par un grognement et se fraya un chemin jusqu'au bord du plateau actuel. Il exhala un peu de fulgiflamme, puis créa une attache pour se fixer vers le haut, afin de compenser l'attraction naturelle du sol. Il devint soudain extrêmement léger. Poussant doucement le sol à l'aide de son pied, il se mit à flotter au-dessus du gouffre pour rejoindre le plateau voisin. Alors, comment est-ce que l'armée a disparu d'un seul coup ? Demanda-t-il en supprimant son attache pour se poser sur la roche.
« Comment veux-tu que je le sache ? »
demanda Syl.
« J'avais un tout petit peu la tête ailleurs. »
Il répondit par un grognement. En tout cas, c'était là le plateau sur lequel tous s'étaient trouvés. Il était parfaitement circulaire, très curieux. Sur un plateau voisin, ce qui avait été autrefois une grande colline s'était entièrement fendu en deux, exposant à l'intérieur les vestiges d'un bâtiment. Ce plateau parfaitement circulaire était nettement plus plat, mais il lui sembla distinguer quelque chose en son milieu. Peut-être une colline. Il s'y dirigea d'un pas énergique. « Alors ce sont toutes des sprennes, » dit-il. « Les lames d'éclat. » L'expression de Syl s'assombrit. « Des sprennes morts, » ajouta Kaladin.
« Morts, » acquiesça Syl. Ensuite, ils revivent un peu quand quelqu'un les invoque en synchronisant le battement d'un cœur avec leur essence.
Comment quelque chose peut-il être un peu vivant.
« Nous sommes des sprennes, »
répondit Syl. « Nous sommes des forces. On ne peut pas nous tuer complètement. Enfin, plus ou moins. »
« C'est parfaitement clair. »«
Ça l'est pour nous, »
répondit-elle.
« C'est vous qui êtes étrange. Si on brise une pierre, elle est toujours là. Si on brise un sprenne, il est toujours là, plus ou moins.
Si on brise une personne, quelque chose s'en va, quelque chose change.
Ce qui reste n'est que de la viande.
Vous êtes bizarre. »
« Je suis ravi qu'on se soit mis d'accord là-dessus, » dit-il en s'arrêtant. Il ne voyait aucune trace de la présence des Aleti. S'était-il réellement échappé? Ou un soudain redoublement de la tempête les avait-ils tous balayés dans les gouffres? Il semblait peu probable qu'une telle catastrophe n'ait laissé aucune trace. « Pitié, faites qu'il n'en soit pas ainsi. »
Il souleva l'épée de Seth de son épaule et la posa devant lui, pointe en bas. Elle s'enfonça de quelques centimètres dans la roche. « Et cette lame ? » demanda-t-il en étudiant l'arme effilée et argentée. Une lame dépourvue d'ornement, c'était censé être une singularité. « Elle ne hurle pas quand je la tiens. »
« C'est parce que ce n'est pas un sprenne, »
répondit-il tout bas. « Qu'est-ce que c'est dans ce cas ?»«
Quelque chose de dangereux. »
Elle se leva de son épaule puis s'approcha de l'épée comme si elle descendait une série de marches. Elle volait rarement quand elle adoptait une forme humaine. Elle le faisait plutôt sous la forme d'un ruban lumineux ou d'un groupe de feuilles ou d'un petit nuage. Il n'avait jamais remarqué auparavant à quel point il était curieux et cependant normal qu'elle se conforme à la nature de celle qu'elle utilisait. Elle s'arrêta juste devant l'épée.
« Je crois que c'est l'une des lames d'honneur, les épées des héros. »
Kaladin émit un grognement. Il en avait entendu parler.
« Tout homme qui détient cette arme devient un marchevent, »
expliqua Syl en se retournant vers Kaladin.
« Les lames d'honneur sont ce qui nous a inspirés, Kaladin. Honneur les a données aux hommes, et ces hommes ont acquis leur pouvoir grâce à elles. Les sprennes ont compris ce qu'il avait fait, et nous l'avons imité. Nous sommes des fragments de son pouvoir, après tout, comme cette épée. Utilise-la avec prudence. C'est un trésor. »
Donc, l'assassin n'était pas un radieux?
Non. Mais Kaladin, il faut que tu comprennes une chose. Quelqu'un qui possède cette épée devient capable de faire ce que tu fais, mais sans les limites qu'impose un sprenne.
Elle la toucha puis frissonna visiblement. Sa silhouette se brouilla une seconde.
Cette épée a conféré à l'assassin le pouvoir d'utiliser les attaches, mais elle s'est également nourrie de sa fulgiflamme.
Toute personne qui l'utilisera aura besoin de beaucoup plus de flamme que toi, à un degré dangereux. Kaladin tendit la main pour saisir l'épée par la poignée, et Syl s'éloigna, retrouvant sa forme de ruban lumineux. Il soupesa l'arme et la posa sur son épaule avant de se remettre en marche. Oui, il y avait une colline un peu plus loin, sans doute un bâtiment couvert de crémon. Tandis qu'il approchait, il vit du mouvement tout autour.
« Ohé ! » appela-t-il.
Les silhouettes qui se tenaient à côté s'arrêtèrent et se retournèrent.
« Kaladin ! » l'appela une voix familière. « Nom des foudres, c'est vous ?»
Il sourit, et les silhouettes se précisèrent alors pour devenir des hommes en uniforme bleu. Teft courut comme un démon pour le rejoindre. D'autres le suivirent, en criant et en riant. Drei, Pit, Bizig et Sigzil, avec Rock qui les dominait de toute sa taille.
« Encore une ?» demanda Rock en étudiant la lame de Kaladin. « Ou c'est à vous ?»
« Non, » répondit Kaladin. « Je l'ai prise à l'assassin. »«
Il est mort dans ce cas ?» demanda Teft.
« Pratiquement. »«
Vous avez vaincu l'assassin en blanc ?» souffla Bizig. « Alors c'est vraiment terminé ?»«
Je crois que ça ne fait que commencer, » répondit Kaladin en désignant le bâtiment. « Quel est cet endroit ?»«
Ah !» répondit Bizig. « Venez, il faut qu'on vous montre la tour. » Cette jeune radieuse nous a appris comment invoquer de nouveau le plateau, du moment que vous êtes avec nous.
« La jeune radieuse ?» demanda Kaladin. « Shallan ?»«
Vous n'avez pas l'air surpris, » répondit Teft avec un grognement.
« Elle possède une lame d'éclat, » dit Kaladin. « Une lame qui ne hurlait pas dans son esprit à lui. Soit elle était une radieuse, soit elle possédait une autre de ces lames d'honneur. Tandis qu'il approchait du bâtiment, il aperçut un pont dans les ombres toutes proches. « Ce n'est pas le nôtre, » déclara-t-il.
« Non, » confirma Leighton. « Il appartient au pont 17. Nous avons dû abandonner le nôtre dans la tempête. »
Rock hocha la tête. « Nous étions trop occupés à empêcher les têtes des pâles iris de sympathiser avec les armes des ennemis. Ha ! Mais nous avions besoin du pont ici. Vu comme la plateforme fonctionne, nous avons dû en descendre pour que Shallan Davar se transporte dans l'autre sens. »
Kaladin passa la tête dans la pièce qui se trouvait à l'intérieur de la colline, puis marqua un temps d'arrêt en découvrant les merveilles qu'elle renfermait. D'autres membres du pont 4 y patientaient, parmi lesquels un homme très grand que Kaladin ne reconnut pas immédiatement. Était-ce l'un des cousins de Lopun? L'homme se retourna, et Kaladin comprit qu'il avait pris pour un casque ce qui était en réalité une plaque crânienne rougeâtre. Un Parchendi. Kaladin se crispa en le voyant saluer. Il portait un uniforme du pont 4, et il possédait le tatouage.
« Rlaïn ?»
demanda Kaladin.
« Mon capitaine, » répondit Rlaïn.
Ses traits n'étaient désormais plus ronds et dodus, mais aigus et musclés, avec un cou épais et une mâchoire plus forte, agrémentée d'une barbe rousse et noire.
« Il semblerait qu'il y ait plus en vous que nous n'en avions perçu, » déclara Kaladin.
« Pardonnez-moi, mon capitaine, » répondit-il, « mais j'ai l'impression que cette remarque s'applique à nous deux. »
Lorsqu'il parlait, sa voix possédait désormais une certaine musicalité, un rythme étrange imprimé à ses mots.
« Le clarissime d'Alinar a pardonné, Arlaïn, »
expliqua Sigzil, qui contourna Kaladin pour entrer dans la pièce.
« D'être un Parchendi ?» demanda Kaladin.
« D'être un espion, » répondit Arlaïn. « Un espion pour un peuple qui, semble-t-il, n'existe plus. »
Il avait prononcé ces mots sur un rythme différent, et Kaladin eut l'impression de percevoir de la douleur dans sa voix. Rock s'avança pour poser la main sur l'épaule de Rlaïn.
« On pourra tout vous raconter une fois qu'on aura regagné la cité, » déclara Teft. « On s'était dit que vous reviendriez ici, » ajouta Sigzil, « sur ce plateau. » Et il fallait donc qu'on soit présent pour vous accueillir, malgré les râleries de la clarissime d'Avar. Enfin bref, il y a beaucoup à raconter, il se passe beaucoup de choses. Je crois que vous allez plus ou moins vous retrouver au centre de tout ça. »
Kaladin inspira profondément, mais hocha la tête. À quoi s'attendait-il d'autre? Plus la peine de se cacher. Il avait pris sa décision.
« Que faut-il que je leur dise pour Moash ?»
se demanda-t-il tandis que les membres du pont 4 s'entassaient autour de lui dans la pièce, en lui expliquant qu'il devait infuser les sphères contenues dans les lanternes. Plusieurs des hommes arboraient des blessures de combat, parmi lesquelles Bizig, qui gardait la main droite dans la poche de son manteau. De la peau grise dépassait de la manche. Il avait perdu cette main face à l'assassin en blanc. Kaladin prit Teft à part. « Avons-nous perdu qui que ce soit d'autre ?» demanda Kaladin. « J'ai vu Marthe et Pédine. »«
Rod, » répondit Teft, « tué par les Parchendi. »
Kaladin ferma les yeux et laissa échapper un soupir sifflant. Rod avait été l'un des cousins de Lopun, un Erdasien jovial qui parlait à peine à Letty. Kaladin ne l'avait pratiquement pas connu, mais il avait fait partie du pont 4, sous sa responsabilité.
« Vous ne pouvez pas tous nous protéger, gamin !» déclara Teft. « Vous ne pouvez pas empêcher les gens de souffrir, les hommes de mourir. »
Kaladin rouvrit les yeux, mais ne le contredit pas. En tout cas, pas à voix haute.
« Kal, »
lui dit Teft d'une voix encore plus basse. « Tout à la fin, avant votre arrivée,
nom des bourrasques, gamin, j'aurais juré voir deux des garçons briller, très légèrement, sous l'effet de la fulgiflamme.
« Quoi ?
J'ai écouté des lectures de ces visions que reçoit le clarissime d'Alinar, » poursuivit Teft. « Je crois que vous devriez le faire aussi. D'après ce que j'en comprends, il semblerait que les ordres des chevaliers radieux n'aient pas été composés que des chevaliers eux-mêmes. »
Kaladin étudia les hommes du pont 4 et se surprit à sourire. Il ravala la douleur d'avoir perdu des hommes, du moins pour l'instant. « Je me demande, » dit-il tout bas, « quel en sera l'effet sur la structure sociale Aleti quand tout un groupe d'anciens esclaves commencera à se balader avec la peau qui brille ?»«
Sans parler de vos yeux, » dit Teft avec un grognement.
« Mes yeux ?» demanda Kaladine.
« Vous n'avez pas vu ?» demanda Teft.
« Qu'est-ce que je raconte ? Il n'y a pas de miroir dans les plaines.
Vos yeux, gamin, ils sont bleu pâle, comme de l'eau limpide, plus pâle que ceux des rois. »
Kaladine se détourna. Il avait espéré que ses yeux ne changeraient pas. La vérité, le fait que ça se soit produit, le mettait mal à l'aise. Ça impliquait des choses préoccupantes. Il ne voulait pas croire que les pâles iris aient le moindre fondement sur lequel bâtir leur oppression.
Ils n'en ont toujours pas,
songea-t-il en infusant les gemmes des lanternes tandis que Sigzil lui donnait des instructions.
Peut-être que les pâles iris dominent à cause du souvenir des radieux, profondément enfouis. Mais ce n'est pas parce qu'ils ressemblent un peu aux radieux que ça leur donne le droit d'opprimer tout le monde.
Foudre de pâles iris. Il était désormais l'un d'entre eux, Bourrasque. Il invoqua Syl sous forme de lame, suivant les explications de Sigzil, et s'en servit comme clé pour actionner le Fabrial.
Shallan se tenait devant les portes d'Ouritirou, levant les yeux et cherchait à comprendre. À l'intérieur, des voix résonnaient dans l'entrée massive et des lumières allaient et venaient tandis que des gens exploraient les lieux. Adoline avait pris les commandes de cette entreprise pendant que Navani établissait un camp pour s'occuper des blessés et faire l'inventaire des fournitures. Malheureusement, ils avaient abandonné la majeure partie de leur nourriture et de leur matériel dans les plaines brisées. Par ailleurs, l'utilisation de la porte du pacte s'était révélée plus coûteuse que Shallan ne l'avait cru tout d'abord. D'une manière ou d'une autre, le voyage avait vidé la majorité des gemmes que portaient les hommes et femmes se trouvant sur le plateau, y compris celles des Fabriaux de Navani, que les ingénieurs et érudits serraient dans leurs mains. Ils avaient procédé à quelques tests. Plus l'on déplaçait de gens, plus la quantité de flammes nécessaires était grande. Il semblait que la fulgiflamme elle-même allait devenir une ressource précieuse, et non plus simplement les gemmes qui la contenaient. Ils étaient déjà contraints de rationner leurs gemmes et leurs lanternes pour explorer le bâtiment. Plusieurs scribes passèrent, apportant du papier pour cartographier les zones explorées par Adoline. Ils adressaient à Shallan des révérences rapides et malaisées en l'appelant « Clarissime Radieuse ». Elle n'avait toujours pas raconté en détail à Adoline ce qui lui était arrivé. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle en penchant la tête entièrement en arrière pour regarder le ciel bleu, loin au-dessus de la tour immense. « Est-ce que je suis l'une d'entre eux ?»« répondit Motif depuis sa jupe. « Tu l'es presque. Il reste encore quelques paroles à prononcer. »« Quel genre de paroles ? Un serment ?» Létis Flamme ne prononce pas de serment au-delà du premier, répondit Motif. Tu dois prononcer des vérités. Shallan étudia encore un moment les hauteurs, puis se détourna et se remit en marche vers leur camp improvisé. Ici, ce n'était pas la saison des pleurs. Elle ignorait si c'était parce qu'ils se trouvaient au-dessus des nuages ou si l'arrivée de ces étranges tempêtes majeures avait perturbé les conditions météorologiques. Dans le camp, les hommes étaient assis sur la pierre, divisés par rangs, frissonnant dans leurs manteaux humides. L'haleine de Shallan formait un nuage devant sa bouche, bien qu'elle ait absorbé de la fulgiflamme, rien qu'un soupçon, pour s'empêcher de remarquer le froid. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup à utiliser pour faire du feu. Le vaste champ de pierre qui se trouvait devant la cité-tour comportait très peu de boutons de roche, et ce qui poussait là était minuscule, plus petit que le poing. Il fournirait peu de bois pour le feu. 10 plateaux en forme de colonne, autour de la base desquels s'enroulaient des escaliers, entouraient le champ. Les portes du pacte. La chaîne de montagnes s'étendait derrière eux. Du crémant couvrait une partie des marches et s'écoulait par-dessus les bords du champ. Il était nettement moins abondant ici que dans les plaines brisées. Il devait tomber moins de pluie à cette hauteur. Shallan s'approcha d'un des bords du champ de pierre. La hauteur était vertigineuse. Si Noadon avait réellement marché jusqu'à cette cité, comme l'affirmait la voix des rois, alors son trajet avait dû le pousser à escalader des parois abruptes. Jusqu'à présent, il n'avait trouvé aucun autre moyen de descendre qu'en empruntant les portes du pacte. Et même s'il existait un tel moyen, l'on se retrouverait malgré tout échoué au milieu des montagnes, à des semaines de toute civilisation. À en juger par la hauteur du soleil, les érudits situaient la cité près du centre de Rochard, quelque part dans les montagnes proches de Toubaïla, ou peut-être d'Emul. Cet emplacement à l'écart de tout rendait la cité extrêmement facile à défendre sur un plan tactique. Du moins, Dalinar l'affirmait-il. Mais il les isolait également, au risque qu'ils se retrouvent coupés de tout. Voilà qui expliquait la façon dont tout le monde regardait Shallan. Ils avaient essayé avec d'autres lames d'éclat. Aucune n'était parvenue à faire fonctionner ce fabrial ancien. Shallan était, littéralement, leur seul moyen de quitter ces montagnes. Près d'elle, l'un des soldats s'éclaircit la gorge. « Vous êtes sûr de vouloir rester aussi près du bord, clarissime radieuse ?» Elle lui décocha un regard ironique. « Soldat, je serai capable de survivre à cette chute et de me relever comme si de rien n'était. »«
Oui, clarissime, » répondit-il en rougissant.
Elle s'écarta du bord et poursuivit son trajet pour aller trouver Dalinar. Des regards la suivaient sur son passage. Soldats, scribes, Palsiris aussi bien que clarissime. Eh bien, qu'il voit donc Shallan la radieuse. Elle pourrait toujours retrouver sa liberté plus tard, en portant un autre visage. Dalinar et Navani supervisaient un groupe de femmes près du centre de l'armée. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Shallan en approchant. Dalinar se tourna vers elle.
Les scribes rédigeaient des lettres en utilisant tous les écocalames dont ils disposaient, afin d'envoyer des messages de mise en garde au camp de guerre et au relais d'information de Tachik.
Il se peut qu'une nouvelle tempête arrive, depuis l'ouest plutôt que l'est. Tenez-vous prêts.
La nouvelle Natanan,
sur la côte la plus à l'est de Rochard, serait frappée aujourd'hui après que la tempête éternelle aurait quitté les plaines brisées. Ensuite, elle pénétrerait dans l'océan à l'est et se dirigerait vers l'origine. Aucun d'entre eux ne savait ce qui se passerait ensuite. Ferait-elle le tour du monde pour revenir percuter ensuite la côte ouest? Toutes les tempêtes majeures n'étaient-elles qu'une seule tempête qui faisait le tour de la planète? Ou bien une nouvelle commençait-elle chaque fois à l'origine, comme l'affirmait la mythologie? Ces jours-ci, érudits et fulgiciens penchaient pour la première option. D'après leurs calculs, à supposer que la tempête éternelle progresse à la même vitesse qu'une tempête majeure à cette période de l'année, ils disposeraient de quelques jours avant qu'elle ne revienne frapper Shinovar et Eri, puis ne traverse le continent, dévastant les cités que l'on croyait protégées.
« Pas de nouvelles, »
répondit Dalinar d'une voix tendue.
« Le roi paraît avoir disparu. »
Qui plus est, Kolinar semble en proie à des émeutes. « Je ne suis parvenu à obtenir de réponse claire à aucune de ces questions. »«
Je suis sûre que le roi se trouve sain et sauf quelque part, » dit Shallan en regardant furtivement Navani.
Celle-ci gardait une expression posée, mais lorsqu'elle donna des instructions à l'une des scribes, sa voix était tendue et son ton sec. L'un des plateaux en forme de colonne clignota non loin de là. La cause en était un mur de lumière qui tournait tout autour, laissant des images rémanentes floues qui se dissipaient peu à peu. Quelqu'un avait activé la porte du pacte. Dalinar alla se placer près d'elle, et ils attendirent, tendus, jusqu'à ce qu'un groupe de silhouettes en bleu apparaisse au bord du plateau et se mette à descendre les marches. Le pont 4.
« Oh, le Tout-Puissant soit loué !» chuchota Shallan.
C'était lui, pas l'assassin. L'une des silhouettes tendit le doigt vers le bas, là où se tenaient Dalinar et les autres. Kaladin se sépara de ses hommes, se laissa tomber du haut des marches et survola l'armée en flottant. Il atterrit sur les pierres et se mit aussitôt à marcher l'air de rien, portant une lame d'éclat sur son épaule, son long manteau d'officier déboutonné lui tombant aux genoux. « Il porte encore les marques d'esclaves, » songea-t-elle, bien que ses cheveux longs les masquent. Ses yeux étaient devenus bleu pâle. Il luisait doucement.
« Béni des foudres !» lui lança Dalinar. « Ô prince,
répondit Kaladin.
L'assassin ?
Mort, dit Kaladin en soulevant la lame pour la planter dans la pierre devant Dalinar.
Il faut que nous parlions.
C'est...
Mon fils, homme de pont,
déclara Navani derrière lui. Elle s'avança et prit Kaladin par le bras, comme si elle se moquait totalement de la flamme qui s'échappait de sa peau comme de la fumée.
Qu'est-il arrivé à mon fils ?
Il y a eu une tentative d'assassinat, répondit Kaladin. Je l'ai empêché, mais le roi a été blessé. Je l'ai caché en lieu sûr avant de venir aider Dalinar.
Où donc ?
Demanda Navani d'une voix insistante.
Nous avons ordonné à nos hommes des camps de guerre de fouiller les monastères, les manoirs, les baraquements.
Tous ces endroits étaient trop évidents, répondit Kaladin. Si vous avez pu penser à l'y chercher, l'assassin le pouvait aussi. Il me fallait un lieu auquel personne ne penserait.
Lequel, dans ce cas,
s'enquit Dalinar. Kaladin sourit.
Le Lopun ferma le poing sur la sphère qu'il contenait. Deux pièces plus loin, sa mère réprimandait un roi.
Non, non, Majesté, dit-elle avec son accent prononcé, sur le même ton sévère qu'elle employait avec les H-dogs. Vous le roulez en entier et vous le mangez. Vous ne pouvez pas le décortiquer comme ça.
Je n'ai pas très faim, non, répondit Elokar.
Sa voix était faible, mais il s'était réveillé de la stupeur dans laquelle l'avait plongé l'ivresse, ce qui était bon signe.
« Vous allez manger quand même, » répliqua maman. « Je sais quoi faire quand je vois un homme au visage si pâle, et pardonnez-moi, majesté, mais vous êtes pâle comme un drap qu'on accroche au soleil pour sécher, et c'est la vérité. Vous allez manger, pas de protestation. »«
Je suis le roi, je ne reçois pas d'ordre de... »«
Vous êtes sous mon toit !»
l'interrompit-elle. Et Lopun articula ces mots en silence, en même temps qu'elle.
« Sous le toit d'une femme erdasienne, le rang de personne ne compte en dehors du sien. Pas question qu'il revienne vous chercher et découvre qu'on ne vous a pas bien nourri. Je refuse que les gens disent ça, votre clarté, je refuse. Mangez, j'ai de la soupe en train de mijoter. »
Le Lopun sourit, et quoiqu'il entende le roi marmonner, il entendit aussi le bruit de la cuillère contre l'assiette. Deux des cousins les plus forts de Lopun étaient assis devant la masure du petit Erdaz, qui se trouvait techniquement dans le camp de guerre du haut prince Sébarial, bien que les Erdaziens n'y prêtent guère d'attention. Quatre autres cousins étaient assis au bout de la rue, en train de coudre nonchalamment des bottes, surveillant qu'il n'y avait rien de suspect.
« Bon, chuchota Lopun, cette fois, il faut vraiment que tu fonctionnes. »
Il se concentra sur cette sphère qu'il tenait dans sa main. Exactement comme il le faisait chaque jour depuis que le capitaine Kaladin s'était mis à briller. Il finirait par comprendre tôt ou tard. Il en était aussi persuadé qu'il connaissait son propre nom.
« Lopun !»
Un large visage à l'une des fenêtres qui le déconcentra. Son oncle, Chilinko.
« Rabbi le Troyal comme un Erdasien, nous allons peut-être devoir partir.
Partir »
demanda Lopun.
« La nouvelle circule dans tous les camps de guerre du haut prince Sébarial, » répondit Chilinko en erdasien. « Ils ont trouvé quelque chose là-bas dans les plaines. Tenez-vous prêts, au cas où. Tout le monde en parle. J'y comprends rien. »
Il secoua la tête.
« D'abord cette tempête majeure dont personne ne connaissait l'existence, puis les pluies qui s'arrêtent tôt, puis le royal d'Aledkar, rien que ça, sur le pas de ma porte. Et maintenant ça. Je crois qu'on va peut-être devoir abandonner le camp, même si la tombée de la nuit approche. » « Je n'y comprends rien, mais fais en sorte qu'on s'occupe de l'autre royal. »
Le Lopun hocha la tête.
« Je m'en occupe, juste une seconde. »
Chilinko rentra la tête dans la maison. Lopun ouvrit la paume et regarda fixement la sphère. Il n'avait pas envie de manquer un jour d'entraînement avec sa sphère, au cas où. Après tout, tôt ou tard, il allait devoir en regarder une et... Le Lopun aspira de la flamme. Ça se produisit en un clin d'œil. Et il se retrouva assis là, avec de la fulgiflamme s'échappant de sa peau.
« Ah !» s'écria-t-il en se relevant brusquement. « Ah ! Hé, Chilinko, reviens ici ! Il faut que je te colle au mur !»
La flamme s'éteignit. Le Lopun s'arrêta, songeur, et tendit la main devant lui. Si vite disparu, que s'était-il passé ? Il hésita. Ce picotement ? Il tâta son épaule du côté où il avait perdu son bras si longtemps auparavant. Là,
ses doigts trouvèrent une nouvelle bosse de chair qui avait commencé à pousser de sa cicatrice.
« Oh, nom des foudres ! Oui, vous autres, donnez tous vos sphères au Lopen ! Faut que je m'entraîne à briller !»
Moash était assis à l'arrière de la charrette qui se frayait un chemin cahotant hors des camps de guerre. Il aurait pu voyager à l'avant, mais il ne voulait pas se trouver loin de son armure, qu'ils avaient enveloppée dans des paquets distincts entassés à l'arrière pour la cacher. La lame et la cuirasse lui appartenaient peut-être, mais il n'avait aucune illusion quant à ce qui se produirait si les Aleti le découvraient en train d'essayer de s'enfuir avec elle. Sa charrette atteignit le haut de la côte près de la sortie des camps de guerre. Au-delà, d'interminables fils de gens serpentaient en pénétrant dans les plaines brisées. Les ordres du haut prince d'Alinar avaient été très clairs, quoique déroutants. On abandonnait les camps de guerre. Tous les parches devaient rester en arrière, et toute la population des camps devait se diriger vers le centre des plaines brisées. Certains des hauts princes obéissaient, d'autres non. Curieusement, Sadeas était l'un de ceux qui l'avaient fait, et son camp s'était vidé presque aussi vite que ceux de Sébarial, Royod et Aladar. Tout le monde semblait y aller, même les enfants. La charrette de Moash s'arrêta. Grave vint se placer près de l'arrière quelques instants plus tard.
« On n'aurait pas dû prendre la peine de se cacher, » marmonna-t-il en observant l'exode. « Ils sont trop occupés pour nous prêter attention. Regarde là-bas. »
Plusieurs groupes de marchands se rassemblaient à l'extérieur des camps de Dalinar. Ils feignaient de préparer leurs affaires pour partir, mais ne progressaient visiblement pas.
« Des pilleurs, » commenta Grave. « Ils vont entrer dans les camps de guerre pour les mettre à sac. Foudre de crétins. Ils ont bien mérité ce qui approche. »
« Mais qu'est-ce qui approche ?» demanda Moash.
Il avait l'impression qu'on venait de le jeter dans un fleuve agité qui aurait débordé de ses rives après une tempête majeure. Il nageait avec le courant, mais peinait à garder la tête émergée. Il avait tenté de tuer Kaladin. Kaladin. Tout était tombé à l'eau. Le roi avait survécu, Kaladin retrouvait ses pouvoirs, et Moash... Moash était un traître, à double titre.
Une tempête éternelle, répondit Grave.
Il semblait beaucoup moins raffiné à présent qu'il portait la salopette rapiécée et la chemise d'un sombre iris pauvre. Il avait utilisé des gouttes étranges pour les yeux, afin de leur donner une couleur foncée, puis avait ordonné à Moash de l'imiter.
C'est-à-dire.
« Le diagramme reste vague, » répondit Grave. « Nous ne connaissons le terme que grâce aux visions du vieux Gavilar, mais le diagramme affirme que cela fera sans doute revenir les néantifères. Apparemment, il s'est avéré que c'était les Parches. »
Il secoua la tête.
« Damnation, cette bonne femme avait raison. »«
Quelle bonne femme ?»«
Jasna Colin. »
Moash secoua la tête. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Les phrases de Grave lui faisaient l'effet de suites de mots qui n'auraient pas dû aller ensemble.
Parche, Néantifère, Jasna Colin.
C'était la sœur du roi. N'était-elle pas morte en mer? Que savait Grave à son sujet?
Qui es-tu vraiment?
Demanda Moash.
Un patriote, répondit Grave, comme je te l'ai dit. Nous sommes autorisés à poursuivre nos propres intérêts et nos propres buts jusqu'à ce qu'on nous appelle. »
Il secoua la tête.
« J'étais persuadé que mon interprétation était la bonne, que si nous éliminions Elokar, Dalinar deviendrait notre allié dans ce qui se prépare. Eh bien, on dirait que je me suis trompé. Ou alors, j'ai été trop lent. »
Moash eut la nausée. Grave lui serra le bras.
« Garde confiance, Moash. Si je ramène un porte-éclat avec moi, ma mission ne sera pas un échec total. Et puis, tu pourras nous parler de ce nouveau radieux. Je vous présenterai le diagramme. Nous avons une mission importante. »«
À savoir ?»«
Le salut du monde entier, mon ami. »
Grave lui donna une petite tape, puis se dirigea vers l'avant de la charrette, où voyageaient les autres.
Le salut du monde entier. On m'a manipulé comme l'un des 10 fantasques, songea Moash.
menton sur la poitrine. Et je ne sais même pas comment. La charrette se remit en mouvement.